APH déroule le tapis rouge à la rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
Son nom figure sur la liste des invités de l'édition 2025 de la rencontre cinéma de Pézenas. Il a accepté de répondre à nos questions et de passer quelques instants avec les auditrices et les auditeurs de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Pierre Carles est un documentariste français. En 1992, il s'est fait connaître grâce à un reportage sur la fausse interview de Fidel Castro réalisée par Patrick Poivre d'Arvor et Régis Faucon. Selon Libération, Pierre Carles s'est forgé une image de contestataire de référence particulièrement appréciée dans la galaxie Mouvement social et Gauche alternative. Pierre Carles est connu pour son travail de critique du fonctionnement des médias dominants au travers de ses documentaires. Je vous propose maintenant d'écouter mon entretien avec lui.
Je me suis un peu spécialisé là-dedans, disons, essayer de porter une critique des médias à l'intérieur même du système. Mais très vite, je me suis fait, j'ai été écarté de ce système télévisuel et puis je suis parti faire des films, d'abord des courts-métrages, et puis documentaires, et puis après des longs-métrages. Mais il me semble que la télévision, toujours aujourd'hui, même si elle n'est pas la seule, mais elle continue de porter des discours dominants et de... En ce moment, je travaille beaucoup sur les questions de terrorisme, entre guillemets, sur le fait que des gens qui pratiquent la lutte armée sont systématiquement qualifiés et ostracisés en leur collant l'étiquette terroriste. J'essaie sur cette question-là d'apporter un contrepoint, de proposer un autre son de cloche que le son de cloche dominant véhiculé par le petit écran, par la télévision et aussi souvent par Internet. Je pense que la télévision n'est pas pluraliste. Qu'elle ne permet pas l'expression de toutes les opinions, qu'elle ne... Je sais pas, par exemple, la décroissance est complètement malmenée par la... n'est ignorée par la télévision. Les gens qui portent des discours décroissants, ils ne peuvent pas s'exprimer à la télévision. On les prend pour des fous, pour des dingues. Et puis, sur tout un tas de conflits, il y a des partis pris très orientés sur le conflit israélo-palestinien, la guerre israélo-palestinienne. À l'évidence, il y a un parti pris... anti-palestinien, très présent dans les grands médias, et un parti pris pro-israélien, très présent dans les grands médias. Alors que la télévision est censée, notamment la chaîne publique, sont censées quand même ne pas être orientées, ne pas faire de la propagande, ne pas faire de la propagande, que ce soit pour le pouvoir politique ou économique. C'est pas vraiment le cas. Donc j'ai tenté, à ma modeste échelle, de proposer... Des films qui font entendre d'autres sons de cloche que le son de cloche dominant.
Vous avez pu voir une certaine évolution dans le fonctionnement des médias à travers votre carrière et les œuvres que vous avez réalisées. Comment évolue ce fonctionnement des médias? Est-ce qu'aujourd'hui, ce qu'ils sont vous inquiète?
Ce qui a peut-être évolué, c'est les formes de censure. Avant, la censure, c'était... l'expression n'est pas de moi, hein, c'était « ferme ta gueule » et maintenant, on est passé à « cause toujours ». Donc avant, on censurait, on ne voulait pas que certaines informations soient publiées, elles étaient censurées. Aujourd'hui, c'est noyé dans un magma, dans un brouhaha, et certaines informations intéressantes, elles deviennent inaudibles, donc elles n'ont plus besoin d'être censurées. Et ça, c'est depuis l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux. Je pense que les choses n'ont pas fondamentalement changé. Il y a toujours une volonté de... pas de désinformer, mais en tout cas de faire en sorte que certains points de vue l'emportent, dominent. C'est des relations de domination. Les dominants essayent d'imposer leur récit narratif. Ça, c'est quelque chose qui n'a pas changé et qui prend d'autres formes aujourd'hui, notamment par le biais des réseaux sociaux, mais ça reste toujours la même histoire. C'est une histoire de domination. Je ne crois pas que les progrès techniques, comme vous dites, ou technologiques, nous amènent ou nous conduisent dans la bonne direction. Certes, il y avait des censures à l'ancienne, mais il y avait aussi, par exemple, sur la question de la représentation des rebelles colombiens, des résistants colombiens, notamment ceux des FARC, il y avait une émission qui s'appelait « Cinq colonnes à la une » dans les années 60, qui permettait de voir qui étaient ces guerrieros, ces guerrieras, et qui les qualifiaient pas de terroristes. Donc il y avait peut-être parfois une plus grande liberté sur certains thèmes qu'il n'y en a aujourd'hui. Je ne suis pas sûr qu'on aille dans la bonne direction. Ça, je suis même persuadé qu'on ne va pas dans la bonne direction et que les discours dissidents, les discours minoritaires, les discours non orthodoxes ont toujours autant de mal, ou les informations simplement qui déplaisent au pouvoir ont toujours autant de mal pour être perçues par la majorité de la population.
Les instances de régulation par rapport aux chaînes de télévision, par exemple, les décisions qu'elles ont prises dernièrement d'interdire C8 ou Énergie 12, ça vous paraît être un outil qui est utilisé de façon pertinente ?
Moi, je suis tout à fait pour qu'on interdise des chaînes de télévision qui manifestement font de la propagande, comme c'est le cas de ces chaînes-là. Mais j'aurais aimé que TF1 aussi ne soit pas renouvelée, la concession de TF1. J'ai fait un film là-dessus. Elle aurait jamais dû être renouvelée par rapport aux promesses qui avaient été faites en 1987, quand la plus grande chaîne publique française est devenue privée, achetée par le groupe Bouygues. Quand on voit les journaux télévisés, on a l'impression de voir le même journal télévisé sur la 1, sur la 2, sur la 3, sur la 6. Peut-être que ce n'est pas nécessaire d'avoir 6 chaînes pour raconter la même chose. Qu'il y en ait 2, 3, pourquoi pas, mais ce n'est pas la peine d'en avoir 15, ou 20, ou 30, ou 40, qui racontent la même chose. Et je ne vois pas du tout... Moi, je ne suis pas du tout hostile au fait qu'on supprime certaines chaînes de télévision. Le problème, c'est que si l'alternative, c'est Internet, c'est les réseaux sociaux, ça n'améliore rien. Ça empire. Donc peut-être qu'un jour, les chaînes de télévision à l'ancienne vont même devenir des sortes de petit contre-pouvoir par rapport aux énormes conneries qui sont racontées sur les réseaux sociaux et sur Internet.
Je vois aussi dans la description de votre activité que vous avez développé une critique du salariat. C'est peut-être un peu surprenant.
Avec deux camarades, Christophe Coyot et Stéphane Gox, et ma productrice historique Annie Gonzalez, et puis d'autres collaborateurs et collaboratrices, on a... En 2002, je crois que c'était, on a fait un film qui s'appelle « Attention, danger, travail », où on donnait la parole à des déserteurs du marché du travail, des réfractaires au salariat, des gens qui n'avaient pas envie de perdre leur vie à la gagner dans des boulots dégradants. C'était pas des boulots épanouissants qui étaient critiqués, c'était des boulots pénibles, dégradants, mal payés. Et on a fait un autre film ensuite qui s'appelle « Volem », au titre mal choisi, qui s'appelle « Volem rien foutre al pays », où des gens s'activaient énormément pour proposer des alternatives aux salariats, en étant la plupart du temps décroissants, en essayant de réduire leurs besoins et leur consommation. Voilà, ces deux films qui, dans le contexte de l'époque en tout cas, proposaient un autre son de cloche que ce qu'on entendait dans les grands médias, où les chômeurs étaient présentés comme des feignants et pas comme des déserteurs. C'est pas la même chose. Tandis que nous, ce qui nous semble intéressant, c'est de montrer certains chômeurs qui ne cherchaient pas forcément du travail, non pas comme des assistés, mais comme des gens qui voulaient pas participer de la guerre économique. Ils n'avaient pas envie de se battre contre les Chinois, contre les Indiens, contre les gens qui produisaient avec des conditions sociales et environnementales très dégradées. Ils n'avaient pas envie de participer à cette compétition-là. Donc ils préféraient se mettre en retrait et déserter le marché du travail. Et ça nous semblait vachement important de donner la parole à ces gens-là, à cette époque, toujours aujourd'hui d'ailleurs. Voilà pourquoi nous avons fait ces films-là. Toujours dans le souci de proposer de la contre-information et de proposer un autre son de cloche.
Si vous permettez, je voudrais ouvrir une petite parenthèse. Dans le programme de la rencontre cinéma de Pesnas, votre fiche de présentation à la fois de votre carrière, mais aussi du film dont on va parler tout à l'heure, Guérilla des Farc, vous figurez dans la rubrique Passeur de cinéma en Occitanie. Vous avez des liens particuliers avec la région Occitanie?
J'habite en Occitanie, oui, j'habite en Languedoc. Mais bon, le rôle de passeur, je pense que c'est un rôle que je joue sans avoir forcément à être labellisé. Quand je fais un film sur le sociologue Pierre Bourdieu, c'est pour faire passer des analyses qui me semblent très intéressantes, qui sont celles de ce sociologue, de ce chercheur en sciences humaines, et de les faire transiter, qu'elles arrivent à un public plus large. Donc le rôle de passeur, il me semble tout à fait assumable, oui.
Votre œuvre cinématographique est souvent perçue comme singulière, non seulement par rapport au thème que vous abordez, par rapport au sujet autour desquels vous avez construit vos réalisations, mais aussi par rapport à la forme.
Il y a des formes, hein, parce que j'ai fait des films, par exemple, où j'apparais en tant que personnage, poil à gratter, emmerdeur des grands médias. C'est mon premier film, Pas vu, pas pris, c'est un peu la réputation que j'avais après ce film. Puis La sociologie est un sport de combat, le film sur sociologue Pierre Bourdieu, son portrait, c'est un film où il n'y a pas de, d'apparition de mon personnage, il n'y a pas de voix off, donc c'est une forme assez différente, très différente même. J'ai fait avec des camarades monteurs, réalisateurs, réalisatrices du coin, on a fait un film sur les Gilets jaunes, où on a, en 2019, où on a récupéré les images qu'ils avaient tournées sur un rond-point avec leur smartphone, le rond-point des Margues dans le Gard, et on a essayé de documenter le combat des Gilets jaunes à travers leurs propres images. Ça s'appelle Le rond-point de la colère, c'est un film collectif qui lui aussi n'a rien à voir avec... Enfin, en apparence en tout cas, avec mes autres films long-métrage. Donc j'ai fait des films assez différents, mais qui ont simplement comme point en commun d'être des films libres, non contrôlés par les chaînes de télévision, pas trop formatés, on va dire, et qui ne se fixent pas de limites en matière de liberté d'expression. Ça, c'est peut-être leur caractéristique, c'est que quand on voit les films qu'a produit Annie Gonzalez, ou que j'ai réalisé, ou co-réalisé, il y a une grande liberté dans ces films. Des fois, on est à la limite de problèmes juridiques. On ne respecte pas toujours le droit à l'image des personnes filmées lorsque ce sont des puissants, lorsque ce sont des gens qui ont un grand pouvoir et qui n'apprécient pas tout le temps d'être questionné. Mais on a réussi, grâce au cinéma, et surtout grâce aux salles indépendantes, ça c'est très important, ou au festival comme celui-ci, de faire circuler ces films libres et indépendants un peu dans toute la France, pendant 25 ans.
On a vu tout à l'heure, on évoquait que vous aviez eu une approche très critique des médias, que vous avez toujours d'ailleurs, une approche très critique des médias dominants, et bien souvent, vous avez été quand même exclu ou rejeté par certains d'entre eux qui n'ont pas accepté de diffuser un certain nombre de choses que vous aviez produites. Est-ce que c'est ça qui vous a amené à vous lancer dans la réalisation de documentaires de...
Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est que après avoir opéré une critique des médias, d'abord à l'intérieur de la télévision, puis ensuite à l'extérieur avec mon premier film « Pas vu, pas pris », je me suis retrouvé blacklisté par les chaînes de télévision. Et aucun de mes films n'a été acheté par une des principales chaînes de télévision françaises, par Arte, par Canal+, par France Télévisions. Donc, nos films sont censurés sur les grands médias. C'est totalement anormal, par exemple, que Arte n'ait jamais acheté et diffusé La sociologie d'un sport de combat, alors que c'est sa mission, normalement, de rendre visibles les œuvres de grands penseurs ou de grands chercheurs comme Pierre Bourdieu. Mais bon, on nous fait payer, encore aujourd'hui probablement, on nous fait payer le fait d'avoir été très critique à l'égard de ces chaînes de télévision et à l'égard de ces grands médias. Et il ne faut pas s'en étonner. Les médias n'aiment pas ça. Ils aiment quand vous êtes. Ils préfèrent que vous soyez docile, que vous fassiez ce qu'ils vous ont commandé, et pas que vous soyez trop indépendant. Ça, c'est. Je dirais que c'est normal, entre guillemets, quoi.
Et en matière de distribution de vos œuvres, comment vous avez surmonté cette difficulté que vous évoquez ?
Comme je disais, en France, on a la chance d'avoir un réseau de salles indépendantes qui passent des films dits art et essai. Il y en a des centaines de ces salles. Il y a aussi un système du cinéma qui permet de produire des films avec des... Comment dire, le financement des petits films français est en partie lié aux grosses recettes des films américains. C'est-à-dire que les films américains, ils subventionnent le cinéma français quand ils font des grosses recettes. Les films français aussi, mais bon. Mais les films américains n'en bénéficient pas de ces fonds de soutien du Centre national de la cinématographie. Et ça, c'est l'exception culturelle française qui nous permet d'avoir des centaines, 180 films ou plus, même peut-être, qui sont produits chaque année en France. Et puis ce réseau de salles indépendantes. Et il y a aussi ce qu'on appelle les distributeurs, ceux qui jouent le rôle d'intermédiaire entre les salles et les productions, et la production, les producteurs. Et il y a aussi là beaucoup de petits distributeurs ou moyens distributeurs indépendants. Là, par exemple, mon dernier film est distribué par les films des Deux Rives, qui sont d'ailleurs en Occitanie, et qui passent des films comme les nôtres, qui les proposent aux salles de cinéma, qui les sortent, qui engagent même des dépenses pour les sortir. Donc on a cette chance en France d'avoir cette exception culturelle, aussi dans le domaine du livre avec les petits libraires, hein, et dans le domaine du cinéma indépendant.
C'est la rencontre cinéma de Pézenas a prévu la projection du film « Guérilla des FARC, l'avenir a une histoire ». D'abord, peut-être une explication sur le titre.
Bon, « Guérilla des FARC », on comprend que c'est un film sur des maquisards, des guérilleros, des rebelles colombiens, les FARC, dont on avait beaucoup entendu parler au moment où ils avaient enlevé une femme politique franco-colombienne qui s'appelait Ingrid Betancourt. Et la manière dont on avait parlé d'eux à ce moment-là m'avait beaucoup énervé, parce que on racontait beaucoup de bêtises dans les grands médias sur les FARC. On les présentait comme des narco-terroristes. On les réduisait à des narco-terroristes. C'était, je trouve, scandaleux, quoi, la manière dont ils ont été présentés à cette époque. Donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai fait ce film. Pourquoi l'avenir a une histoire? Parce que si on veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui en Colombie, il faut comprendre ce qui s'est passé avant. Et c'est ce que fait le film. Le film a une grande profondeur historique. Hein. Il raconte l'histoire depuis 1948 jusqu'à 2022. Et c'est pour le spectateur un moyen de ne pas se faire avoir par les discours médiatiques, le fait d'avoir toute l'histoire en tête. De la même manière que, si on, pour vous citer un autre exemple, si les médias vous racontent l'histoire de la guerre israélo-palestinienne à partir du 7 octobre 2023, vous ne comprenez rien, parce que vous n'avez pas l'histoire d'avant. Vous n'avez pas ce qui s'est passé avant, ce qui a conduit les gens du Hamas à attaquer Israël. Donc il faut avoir toute l'histoire pour ne pas se faire avoir, et c'est ce qu'on essaie de faire avec ce film, de raconter toute cette histoire de la guérilla, de la rébellion de ces paysans colombiens qui n'avait jamais été racontée avec cette profondeur historique.
On comprend l'intérêt que vous pouvez porter à une situation de ce type, mais pourquoi plus particulièrement celle-là?
Parce que j'étais bien placé pour la raconter, cette histoire, puisque j'ai vécu en Colombie, j'ai eu un beau-père qui a été un cinéaste chilien réfugié en Colombie et qui a travaillé, qui a fait des films, un film du moins sur l'histoire de cette rébellion armée paysanne colombienne. Donc j'avais été sensibilisé très tôt à cette affaire, à cette histoire, et j'étais bien placé pour la raconter plusieurs années plus tard. J'étais pas le plus mal placé en tout cas.
Entre 2012 et 2022, vous avez travaillé à la réalisation de ce film, 10 ans.
Oui, pas exclusivement, j'ai fait d'autres films entre-temps, mais le tournage de « Guérilla des FARC, l'avenir, une histoire » a pris 10 ans. On a commencé à tourner alors qu'ils étaient encore dans le maquis, les guerrieros et guerrieras, ils étaient encore dans la clandestinité. Après, ils ont signé un accord de paix en 2016, et après ils sont sortis du maquis, ils sont allés dans des zones de regroupement, ils ont essayé de retourner à la vie civile. Et le film raconte toute cette histoire de sortie du maquis, et il fallait pour cela tourner pendant plusieurs années pour voir ce qui se passait, ce qui allait se passer.
Vous continuez bien sûr à travailler, et vous avez actuellement un film en projet.
Oui, j'ai un long métrage sur une autre histoire de, entre guillemets, terroriste, sur l'histoire du plus ancien prisonnier de la guerre israélo-palestinienne, un militant libanais pro-palestinien, communiste, qui s'appelle Georges Ibrahim Abdallah, qui est détenu d'ailleurs en Occitanie, bizarrement, pas en Israël, pas dans les prisons israéliennes, mais dans les prisons françaises. Et là encore, le qualificatif terroriste a été collé à tort à ce militant, à ce fédayine, ce guérillero. Et donc je raconte la justice d'exception dont il est victime en France depuis 40 ans. Il est incarcéré depuis 40 ans, et à travers son cas, à travers son histoire, on approche d'autres questions, notamment le manque de souveraineté de la France par rapport aux États-Unis, qui fait pression sur les autorités françaises pour qu'ils ne soient pas libérés, et avec succès jusqu'ici. On approche aussi le rôle néfaste des médias qui lui ont attribué des attentats qu'il n'avait pas commis, lui et son groupe. Voilà, on approche tout un tas de questions à travers cette histoire de résistance, là aussi, mais pas du côté colombien, du côté proche-oriental.
Ce film est présenté comme un film enquête.
Oui.
Quelle différence entre un documentaire, un film enquête, un reportage? Cette appellation, cette dénomination film enquête, convient bien au travail que vous souhaitez réaliser?
Là, il s'agit très spécifiquement d'un film enquête, c'est-à-dire que c'est une enquête sur qu'est-il arrivé à ce bonhomme, comment s'est-il retrouvé dans cette situation de passer 40 ans en prison, et on a retrouvé les acteurs, les témoins, les archives. Il n'y a pas de de voix off dans ce film. Il n'y a pas de récit personnel comme il peut y en avoir dans d'autres films que j'ai réalisés. Donc on est dans quelque chose de très sec. C'est pour ça que c'est présenté comme un film enquête. Les faits. Voilà. Et les témoignages des acteurs de l'histoire. Pas de commentaires. Voilà la forme qu'a pris ce film-là, qui devrait sortir, j'espère, en fin d'année, et qui devrait s'appeler, avec un titre en anglais, « Who wants George Ibrahim Abdallah in jail ?»« Qui veut que George Ibrahim Abdallah reste en prison ?»
Et la sortie de ce film enquête est envisagée pour quelle date hein ?
Non, il n'y a pas encore de... Là, on est en train de le finir, là, on vient de finir le tournage, on est en train d'achever aussi le montage du film. J'espère qu'en fin d'année, il sera visible, qu'à la fin de l'année, il sera visible et qu'il sera même peut-être sorti en salle avant Noël.
Vous avez les distributeurs ?
Pas encore. Là, on cherche un distributeur. Donc, d'ailleurs, on peut faire un appel au distributeur si ça vous intéresse. On a ce film qui va sortir, qui s'apprête à sortir, enfin, qui s'apprête à être achevé, pardon, et qu'on va commencer à envoyer dans des festivals. Toujours ma productrice historique, Annie Gonzalez, qui produit aussi Guérilla des Farc, L'avenir a une histoire, qui avait produit mon film antérieur, Un berger, deux perchés à l'Elysée, sur l'improbable candidature de Jean Lassalle à l'élection présidentielle de 2017, qui a produit aussi La sociologie d'un sport de combat, dont on parlait, le portrait de Pierre Bourdieu. Et c'est elle et CP Productions, une structure de production autonome, indépendante, qu'on a créée il y a 27 ans, qui produit ce dernier film, enfin le dernier, le film que je suis en train de réaliser et de finir de réaliser actuellement.
Si on met en comparaison tout le travail que vous avez fait, l'investissement qui a été le vôtre, le militantisme que vous avez pu avoir, et l'évolution de la société aujourd'hui, il n'y a pas l'idée que ça reste à dur.
Oui, on peut penser que ce sont des coups d'épée dans l'eau, mais j'ai toujours j'aime bien cette image. S'il y a beaucoup de coups d'épée dans l'eau, ça peut générer des tsunamis, ça peut générer des vagues très importantes, il faut les synchroniser. Donc c'est pas grave de faire des films qui n'ont pas une énorme diffusion, qui passent pas à la télévision, mais ils existent, et même s'il y a une, deux, 15, 20, 30, 200 personnes qui tout d'un coup voient les choses autrement, c'est déjà ça de gagner. Et je pense que, notamment le film qui est actuellement en salle, Guérilla des Farc, l'avenir d'une histoire, les gens qui le voient sont sidérés parce qu'ils se rendent compte à quel point il y a un écart entre ce qu'on leur a raconté et ce qui est la réalité de cette rébellion, ou ce qui était la réalité de cette rébellion colombienne. C'est une grande satisfaction pour le réalisateur de voir que on arrive à faire bouger les choses. Pas assez, sûrement, mais on ne baisse pas les bras. Je ne me pose pas de questions sur le fait d'arrêter. Tant qu'il y a des choses qui me semblent scandaleuses et qui n'ont pas été racontées comme je souhaiterais qu'elles le soient, après avoir enquêté, après avoir travaillé, après avoir documenté ces choses en question, je continue.
En attendant la sortie du prochain film Enquête, on peut toujours conseiller aux gens de retrouver pas mal des œuvres que vous avez produites, et plus particulièrement Guérilla des Farc, L'avenir a une histoire. Pierre Carl, merci beaucoup.
Merci à vous.
À une prochaine fois, sans doute.
Sûrement.
RPH déroule le tapis rouge à la rencontre cinéma de Pézenas. Retrouvez chaque jour les intervenants, les cinéastes et l'équipe du festival.
What the hell's going on here, Bob?